Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute dernière édition de 90 minutes info de la semaine. On parle du débat et des thèmes à suivre juste après le rappel de l'actualité en compagnie d'Adrien Spiteri aujourd'hui.
L'article 1 de la réforme des retraites votée par l'Assemblée nationale, il met fin à une partie des régimes spéciaux. 181 députés ont voté pour, 163 ont voté contre. La gauche était fortement opposée à ce projet du gouvernement. L'Ukraine affirme que 2 missiles russes ont survolé la Roumanie et la Moldavie. Information démentie par Bucarest. Aucun missile n'est entré dans l'espace aérien roumain, indique le ministère de la Défense dans un communiqué. En revanche, ils auraient bien survolé la Moldavie. Le pays a décidé de convoquer l'ambassadeur de Russie. Et puis le bilan continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie. Près de 22 300 personnes ont perdu la vie dans les séismes. 4 Français font partie des victimes. Un premier convoi d'aide a pu entrer hier dans les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie.
Merci beaucoup, cher Adrien. Et au sommaire de cette émission, nous parlons de ce ton qui se durcit côté syndicat pour les mobilisations à venir. Premier test demain, premier rassemblement lors d'un week-end également. Emmanuel Macron, pendant ce temps, fait-il la sourde oreille?
Premièrement, il aime bien parler de la réforme des retraites quand il n'est pas en France. Et la deuxième chose, on pourrait lui renvoyer la politesse. On compte sur l'esprit de responsabilité du président de la République et du gouvernement quand il y a un tel mécontentement dans le pays et qu'on a l'esprit de responsabilité, justement, eh bien, on écoute.
C'est sans conteste la polémique de la semaine. Au terme de 2 heures de débat, Jean-Luc Mélenchon a perdu ses nerfs hier lorsque l'affaire Adrien Quatennens a été évoquée.
La scène que nous venons de vivre, je suppose, sera le moment clé d'une émission que je croyais consacrée aux retraites. Je regrette de vous avoir fait confiance. Vous êtes des gens sans principe, sans foi ni loi.
Vous saviez très bien que c'était dans l'actualité de ce... Restez là, monsieur Mélenchon. Vous ne pouvez pas partir comme ça.
Vol, insécurité chronique, agression sexuelle également. Comment le périmètre du Champ de Mars est devenu, en quelques années, un danger pour des touristes peu précautionneux?
Le Champ de Mars et la Tour Eiffel sont, à bien des égards, la vitrine de Paris dans le monde et la vitrine de la France. Et pour autant, la mairie de Paris est cruellement absente de sa gestion et également de la gestion de la sécurité qui pourrait être mise en place sur le site.
Et je vous présente sans plus tarder les invités qui vont m'accompagner tout au long de cette heure et demie. Bonjour, bienvenue Ludovine de la Rochère. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Manif pour tous. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. Jean-Michel Fauvergue est là également.
Bonjour Nelly.
Jean-Michel, ancien patron du RAID, ancien parlementaire également. Et à vos côtés, Dylan Slama. Maître Slama, vous êtes avocat pénaliste. Bonjour. Alors, vous l'avez compris, on va beaucoup évoquer la contestation de la réforme des retraites. Où va donc la mobilisation de la rue? Le mouvement contre cette réforme est à un tournant, avec pour certains un durcissement syndical qui est attendu. 2 journées de mobilisation sont déjà actées, avant sans doute un retour des manifestations, juste après les vacances d'hiver. Nous allons voir ce qui est en jeu dans ce reportage de Maëva Lamy.
Après plusieurs journées de mobilisation, la question de durcir le mouvement se pose et divise la population.
Malheureusement, on va être obligé de passer par là, parce que le gouvernement ne fléchit pas.
Ce sera super pénible, mais je pense qu'il n'y a que ça qui marchera.
Je trouve que c'est un peu beaucoup.
Le bruit court que les syndicats envisageraient de durcir la mobilisation à partir du 7 mars, avec un appel à une grève totale et reconductible. Pour la CGT notamment, le sujet est sur la table.
La CGT soumet la nécessité de monter le curseur, y compris via des mouvements reconductibles. Il est évident qu'au retour des vacances dans toutes les zones, c'est un moment qui serait intéressant.
Du côté d'autres organisations, le discours est plus nuancé. Si elles partagent la volonté de varier les actions, l'option de la grève reconductible n'est pas évoquée.
Il n'est pas envisagé pour nous de faire un blocage du pays ou de faire des grèves à répétition
qui sont reconduites mécaniquement journée après journée. On n'est pas dans cette logique-là. Même si on est tous d'accord pour dire que, vu qu'on n'est pas entendu aujourd'hui, il va bien falloir trouver peut-être d'autres solutions.
De nouvelles journées de mobilisation sont en revanche confirmées, celles du 16 février et celles de demain. C'est d'ailleurs ce samedi que l'intersyndicale doit se réunir. Des précisions devraient alors être communiquées concernant la suite du mouvement.
Jean-Michel Fauvergue, est-ce qu'on est vraiment à un tournant, comme je le disais, de cette mobilisation, sachant que, même si ce n'est pas encore évident, on sent bien à travers la CFTC, mais également la CFDT, on entendra d'ailleurs Laurent Berger un petit peu plus tard, qu'il y a un frémissement de fissure de ce front syndical. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours au diapason des actions futures à mener.
Oui, c'est clair, mais cette fissure-là, elle nous apparaissait peut-être pas évidente au départ, mais elle y était déjà. Rappelez-vous, la deuxième journée de manifestation a été décidée essentiellement par la CFDT. Et la CGT voulait faire une journée de manifestation avant. Et puis dans le discours, on a vu à plusieurs reprises, effectivement, des espèces de divergences qui prennent de plus en plus d'importance maintenant. Et si on parle de durcir pour certains, de durcir le mouvement, c'est bien qu'à un certain moment, ça imprime moyennement. Il n'y a pas une augmentation du nombre des manifestants.
Il y a même un affaissement quand même.
Il y a eu un affaissement aussi. Je voulais être poli et bienveillant vis-à-vis des manifestants. Mais il y a pas une augmentation de toute manière. Et donc on est effectivement peut-être à un tournant de ça.
Alors, il y a quand même cette phrase qui a quand même quelque peu vexé Philippe Martinez d'Emmanuel Macron. À distance, on le rappelle, puisqu'il était à Bruxelles hier, aux côtés d'ailleurs de Volodymyr Zelensky. Chacun campe aujourd'hui sur ses positions. Emmanuel Macron ne cède rien, tout juste appelle-t-il, à la responsabilité de chacun. On va l'écouter, on va écouter la réponse que lui a apportée Philippe Martinez.
Il y a ensuite des manifestations et des mouvements de grève qui continueront de s'organiser dans un cadre qui est prévu par la Constitution. Et je sais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de leurs organisateurs pour que la contestation et les désaccords puissent s'exprimer, mais dans le calme, le respect des biens et des personnes, et avec une volonté de ne pas bloquer la vie du reste du pays.
On pourrait lui renvoyer la politesse. On compte sur l'esprit de responsabilité du président de la République et du gouvernement pour qu'on ne soit pas obligé d'amplifier les grèves d'avoir des grèves reconductibles. Quand il y a un tel mécontentement dans le pays et qu'on a l'esprit de responsabilité, justement, eh bien, on écoute.
On sent qu'il y a un petit blocage dans la machine, c'est-à-dire qu'on voit bien un Emmanuel Macron qui compte absolument sur le soutien des LR à l'Assemblée pour faire passer le texte. Quand la rue lui répond, en tout cas les syndicats pour l'instant, on n'en a pas fini avec vous et si ça doit durer jusqu'au printemps, il va y avoir un vrai bras de fer qui va s'engager. Pour l'instant, on en est là. Mais les prévisions les plus sombres sont sur la table quand même.
Oui, mais alors à mon sens, on n'est pas dans une bataille qui oppose le gouvernement à certains syndicats. On est vraiment dans une bataille où il me semble que l'opinion pour l'instant majoritairement en France, et je ne parle pas seulement ni des syndicats ni de ceux qui manifestent, conteste cette réforme. Et on voit qu'à mon avis, il y a une bataille de l'opinion qui pour l'instant est perdue par le gouvernement. Et je pense que stratégiquement, Emmanuel Macron, en disant « je veux que tout continue à se passer de manière calme », je ne vais pas dire qu'il espère, mais en tout cas, il se dit que si à un moment il y a des débordements, il en profitera peut-être pour essayer de retourner l'opinion. Si à un moment les grèves se durcissent, il en profitera peut-être aussi pour durcir l'opinion, pour qu'enfin il puisse se dire, selon lui, justement, il commence à être contre les grévistes et les mouvements. Donc je pense que c'est peut-être ça que Emmanuel Macron anticipe en disant « je souhaite que tout se passe bien ». Et au moindre dérapage, il pourra essayer de retourner l'opinion en disant finalement, regardez, la grève, c'est pire que la réforme des retraites.
Tout dépend aussi de la nature des blocages, parce que si on s'en prend à des sites stratégiques, on pense évidemment aux raffineries, comme ça a déjà été le cas, ça peut effectivement éroder ce mouvement de soutien, même si pour l'instant, c'est vrai qu'au tout début de la mobilisation, on était de l'ordre de 71% des Français qui soutenaient les manifestations de rue. Là, on est à 69%, ça reste quand même une majorité écrasante, Ludovine de la Rochère.
C'est-à-dire que les Français n'ont pas envie de travailler davantage, ça apparaît très clairement, en tout cas pour 7 personnes sur 10 qui n'ont pas forcément, du fait de la diffusion des arguments des syndicats, ils n'ont pas forcément en tête la compréhension des enjeux financiers pour l'État et donc pour les Français eux-mêmes. Pour ma part, je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas complètement tort. Le problème, c'est que le projet de réforme est tellement imparfait, que évidemment il est aussi lui-même en tort. Alors il y a quand même eu des avancées, il y a quand même des points sur lesquels le gouvernement a cédé, ou en tout cas la majorité dans le cadre des débats, mais les syndicats ne le reconnaissent pas, n'en tiennent pas compte. En fait, ils sont dans un refus global, avec la difficulté pour eux, en effet, que s'il y a une forme de radicalisation, et c'est ce qui se profile, parce que plus ça dure, moins le gouvernement cède, plus ils vont probablement se durcir. Et par ailleurs, ils avaient déjà conduit des mouvements de grève extrêmement pénibles pour tous les Français depuis la rentrée. Du coup, ils arrivent quand même sur un terrain qu'ils ont déjà miné eux-mêmes.
Tout le monde à gauche a quand même en tête le scénario de 95, avec l'espoir que ça se reproduise. Pour l'instant, quand même, force est de constater qu'on n'en est pas là. Déjà parce qu'en 95, pour ceux qui peut-être s'en souviennent parmi vous, c'était une mobilisation quotidienne. C'est-à-dire que quand les routiers bloquaient, ils bloquaient réellement. Pour l'instant, on en est pas jusqu'à présent à des grèves dites perlées. On n'en est pas à des blocages massifs. Donc pour l'instant, on ne peut pas présager de ce qui va se passer ensuite, Jean-Michel.
Oui, vous avez raison. 95... Et je m'en souviens, puisque j'étais dedans, enfin pas à manifester,
mais j'entends. Galérer. Vous étiez en face peut-être
même. Non, j'étais en police judiciaire, donc.
D'accord.
Mais à galérer, et 95, ça a bloqué dès le départ et ça a bloqué tout le monde. Et c'était une grève massive, importante, qui gênait les Français, qui embêtait les Français. Là, pour l'instant, c'est une grève qui embête moins que ce qu'on a connu quand les raffineries, il y a quelques mois de ça.
Et qui donc ne gêne pas le gouvernement.
Et qui gêne ni le gouvernement, ni la... Mais le problème, c'est pas de gêner ou de pas gêner le gouvernement. Le problème, c'est dans le fond de la réforme, de savoir si on peut, si on peut maintenir une absence de financement dans les années à venir de la, du
régime. Bien sûr, mais pardonnez-moi, j'ai conduit beaucoup de manifs, beaucoup de manifestations, et bien aussi grandes, voire davantage que celles des retraites, et partout en France au même moment, avec parfois plus d'un million de personnes à Paris, et je parle bien de ce que reconnaissait lui-même François Hollande, et je suis bien placée pour savoir que si on ne gêne pas le gouvernement, et si on ne gêne pas les Français, le gouvernement ne bouge pas. Et si on gêne les Français, donc il y a une ligne de crête difficile de manière systématique, si on gêne les Français, alors en plus nous n'étions pas dans le sens des médias, pour la faire courte, du service public, si on gêne les Français, eh bien, l'opinion publique peut se retourner assez vite.
Alors c'est un adage,
ça dépend, parce que si on convoque un peu l'histoire des manifestations, vous avez des manifestations, par exemple sur les deux écoles pendant les années Mitterrand, sur lesquelles il y avait énormément de Français dans la rue.
Oui.
Ça s'est bien passé. Il y a pas eu de casse particulière, mais ils étaient très nombreux.
Mais François Mitterrand avait à cet égard-là, je dois dire, une classe que n'ont pas eu ses successeurs, et donc une manifestation qui n'est pas violente, qui ne casse pas, qui n'abîme pas. Le gouvernement n'a pas peur. Emmanuel Macron ne tremble pas comme une feuille, comme ça a été son cas au début des Gilets jaunes. Et il ne bouge pas. Il s'en fiche, et je suis poli, éperdument. Et là, les syndicats ont cette difficulté typiquement. Et puis, bien sûr, la majorité vous dit « Ah, c'est le Parlement qui va décider, le Parlement représente les Français, il a été élu pour ça. » Et puis, les autres, vous pouvez toujours courir.
C'est ça qui se passe. Vous êtes d'accord pour dire que c'est un adage un peu subtil à trouver, parce qu'il ne faut pas se braquer l'une ou l'autre des parties.
C'est très compliqué. Moi, je dis parfois qu'une manifestation, c'est comme une caricature. Si jamais ça ne fait pas grincer des dents, c'est que c'est raté. Donc, je suis d'accord avec ça. Mais si vous voulez, effectivement, moi, je pense déjà, l'augmentation phénoménale du télétravail fait que les grèves aujourd'hui gênent beaucoup moins, parce que quand on demande aux uns et aux autres, quand ils savent qu'il y a une grève, chacun se met en télétravail. Donc, il y a beaucoup de Français qui sont beaucoup moins gênés. Voilà, exactement. On est beaucoup moins gênés. Et encore une fois, je pense que le gouvernement Emmanuel Macron attend un peu qu'il y ait des dérapages et des durcissements pour pouvoir essayer de renverser. Et c'est d'ailleurs, c'est assez intéressant. C'est ce qui vient de se passer avec un député qui a mis le ministre de la Justice sur un ballon de foot. On peut critiquer le ministre du Travail, M. Dussopt. On peut ne pas être d'accord, on peut contester. Et je suis d'ailleurs d'accord avec ça. Mais on voit quand même l'instrumentalisation qui a été faite de ça par le gouvernement en disant attention, regardez, il dérape. Et pour essayer justement de renverser l'opinion qui, encore à plus de deux tiers, soutient. Moi, je ne suis pas d'ailleurs d'accord avec ce que vous avez dit sur les Français ne comprennent pas. Moi, je pense que les Français comprennent très bien, et je pense que les Français ne veulent pas de cette réforme. On a deux légitimités qui s'opposent. Celle du peuple, qui est représentée par les syndicats et les manifestants, mais qui est le peuple, puisque c'est 70%, et celle d'un président de la République qui, c'est vrai, a été élu.
Je vais vous laisser lui répondre, après on avance un petit peu.
Parce qu'il y a beaucoup de fake news. Hein. On prétend que... Dans un sens comme dans l'autre, malgré tout, il y a bien un problème de financement des retraites.
C'est pas ce que dit le corps.
elle représente un quart des budgets de l'État. Le corps dit non, après, que l'année prochaine que et dans deux ans, il n'y a pas de difficulté. Ouais. Le problème, non,
jusqu'en 2027.
Le problème, c'est qu'un gouvernement, ou un peu plus, c'est qu'un gouvernement, il ne doit pas voir à courte échéance, il doit voir à moyenne et longue échéance. Et pour moi, l'immense scandale, c'est qu'il y a des paramètres majeurs qui changent complètement la donne, qui ne sont pris en compte ni par les syndicats, évidemment, je pense à la natalité et aux mères de famille, qui ne sont pris en compte ni par le gouvernement et Emmanuel Macron, pas un mot, ni par les syndicats, pas un mot non plus. Donc de toute façon, on fait du surplace.
Les syndicats, ils s'arc-boutent sur cette, ce totem, comme on l'a appelé, de 64 ans. Juste pour avancer un petit peu, et vous allez pouvoir réagir également à ce qui suit, on va prendre connaissance d'extraits de l'interview accordée par Elisabeth Borne à nos confrères de La Voix du Nord, sur lequel elle revient, au fond, sur les sujets qui fâchent. Vous en avez évoqué un, c'est celui des femmes. Regardez ce qu'elle dit à ce propos, sur ces fameux angles morts que certains ont décelé, à l'image d'ailleurs de Franck Riester, qui est quand même un membre du gouvernement. Elle dit « Je suis assez choquée d'entendre dire que la réforme pénalise les femmes. Évidemment, je ne porte pas une réforme qui les pénalise », sans pour autant être très concrète sur la question. Elle donne pas trop de précisions. On voit toutes les faiblesses des dispositifs. Ah, c'est allé un peu vite, j'ai pas réussi à lire la fin de la phrase.
Nelly, si vous permettez,
des dispositifs en vigueur.
Si vous permettez, voilà. Je vais expliquer. Pour ce qui est des femmes les plus modestes, les plus pauvres, oui, effectivement, il va y avoir une petite amélioration. En revanche, ça c'est exact. En revanche, pour l'ensemble des femmes, c'est-à-dire dans l'immense majorité des cas, les mères, le dispositif fait d'elles les grandes perdantes de la réforme. Et comme les mères auront des trimestres que la nation leur doit pour les enfants qu'elles ont eus, pour la maternité, pour tout ce que cela peut représenter, et qui favorise la natalité dont nous avons besoin, eh bien, cela ne comptera plus dans les faits. Et donc, Mme Borne, comme trop souvent, joue avec les mots « des femmes seront aidées, l'ensemble des femmes seront pénalisées ».
Autre extrait, la relation au travail. Alors ça, c'est assez intéressant, parce qu'on parle quand même aussi d'un point de vue philosophique, du lien, de l'idée qu'on se fait aujourd'hui du travail. On sait que c'est générationnel, on n'a pas la même perception aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 40 ou 50 ans. Regardez ce qu'elle dit à ce propos, sur cet extrait de la relation au travail. Quand on parle retraite, on pose toute la question de la relation au travail. Ce n'est pas tellement de travailler deux ans de plus, c'est qu'ils ne sont pas heureux dans leur travail. Alors ça, je voulais quand même vous le faire commenter. Est-ce que c'est là que le bât blesse ? C'est qu'il faudrait retrouver du cœur à l'ouvrage, en fait,
oui,
selon elle ?
C'est absolument passionnant, cette question. Et d'ailleurs, c'est passionnant parce qu'on voit qu'elle divise à gauche. On a la gauche Ruffin et la gauche Rousseau. Est-ce qu'on a le droit à la paresse ou pas ? Et je suis d'accord, c'est passionnant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il existe une valeur travail ? On en est là. On se rappelle du slogan de 2007, travailler plus pour gagner plus. Mais c'est vrai que c'est très compliqué d'entendre ces choses-là de la part d'un ministre ou d'un premier ministre. Moi, il y a une phrase dont je me rappelle de Manuel Valls en 2007 ou 2018 qui avait dit la langue politique aujourd'hui est une langue morte. Et je pense que c'est vrai. Je pense que les gens n'écoutent plus ce que disent les hommes politiques parce qu'on sait qu'ils se contredisent. On sait qu'on a, vous avez dit, Franck Riester qui dit l'inverse le lundi de ce qu'il va dire le jeudi.
Ça peut se taper sur les doigts.
Oui, mais alors, vous savez, il y a aussi sur la question des 1200 euros minimum. Est-ce qu'il existe ou pas ? On nous a dit oui, d'abord c'est pour tout le monde, ensuite non, c'est pas pour tout le monde. Et donc on voit que de toute façon, ce genre de déclaration, je pense, n'a plus aucune prise sur les Français qui n'écoutent absolument plus ce que disent les gouvernants. Et moi, il y a une phrase de Elisabeth Borne qui m'a marqué, c'est qu'elle dit à la fois que c'est une réforme de justice, et à la fois elle a dit dans Le Parisien sur cette réforme et sur le reste, je n'ai aucun état d'âme. Mais je ne comprends pas, si c'est une réforme juste, pourquoi faudrait-il avoir des états d'âme ?
Oui, c'est vrai, c'est l'expression peut-être assez malheureuse. Les seniors. Alors les seniors, on sait qu'on ne va pas encore assez loin, ça lui a beaucoup été reproché, y compris dans les rangs de la majorité. Voici ce qu'elle dit sur ce fameux index qui sera publié. Alors les seniors, des entreprises seront donc mises à l'amende si elles ne se conforment pas. Alors on doit changer de regard, ne plus se priver de leur expérience, très bien, bon jusqu'ici tout va bien. Nous allons mettre en place un index en entreprise avec des pénalités si elles refusent de le remplir ou qu'aucun plan d'action n'est proposé. Or là-dessus on a dit... Elle va pas assez loin, Jean-Michel Fauvergue. L'index, c'est pas quelque chose de coercitif. Il faudrait vraiment prévoir de les sanctionner si jamais elles ne jouent pas le jeu de l'embauche. En fait, c'est ça qui sera vraiment de nature à leur tendre le bras.
Je vais vous dire, Nelly, ce qui est très coercitif en ce moment et ce qui va continuer à être coercitif si la situation continue dans ce sens-là, c'est le marché de l'emploi. Aujourd'hui, il y a des tas d'emplois qui ne sont pas ni pris ni par les uns ni par les autres. Et je signale d'ailleurs que depuis les années 2000, l'emploi des seniors augmente. En France, l'emploi des seniors augmente de manière relativement régulière.
D'accord, mais il y a toujours 42% qui sont sans activité.
Pardon ?
Il y en a toujours 42%
qui sont sans activité. Oui, bien sûr, bien évidemment. Moi, je pense que dans un avenir rapide, vous avez un marché de l'emploi qui est tendu et il n'y a aucune raison que les seniors, qui justement seront encore plus seniors en arrivant jusqu'à 64 ans, ne soient pas intéressés à ce marché de l'emploi. Et les entreprises actuellement se tournent vers les seniors. Moi, j'ai des entreprises, je connais des entreprises sur mon ancienne circonscription, mais partout en France, qui se tournent vers les seniors. Donc c'est ça l'évolution des choses aujourd'hui.
Non, mais est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de concret à faire dans le sens, par exemple, quelque chose de plus incitatif, beaucoup l'ont dit, de l'ordre de l'allègement des charges sociales, tout simplement. Enfin, je veux dire, ça peut être aussi une manière de les encourager.
Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Soit certains qui ne prônent pas l'avancée jusqu'à 64 ans de l'âge de la retraite disent il faut taxer les entreprises. Alors, soit on les taxe, soit on les allège. Il faut être d'accord avec ce que et cohérent avec ce qu'on dit. Je ne sais pas si moi à ce niveau-là j'ai pas une opinion très tranchée, si ce n'est de vous dire que aujourd'hui on est en situation de les employer une certaine partie.
Allez, un dernier mot là-dessus.
Il y a quand même une chose, c'est que ça dépend des métiers. Il y a des métiers que de facto on ne peut pas exercer indéfiniment, ou alors des métiers, par exemple, je sais que ça concerne pas relativement souvent les métiers d'ingénieur, où au bout d'un moment on est dépassé, on n'a peut-être plus non plus tout à fait la même souplesse d'esprit, en tout cas pas tout le monde, mais il y a la question de la formation continue, sur lequel il y a eu des efforts mais qui sont manifestement insuffisants, parce qu'il y a en revanche des métiers qui peuvent se poursuivre très longtemps, les médecins souvent poursuivent très longtemps, par choix ou par nécessité d'ailleurs, et puis il y a des métiers auxquels on peut former, dont nous avons absolument besoin, nous avons du mal à recruter. Mais c'est vrai qu'il y a une question de culture. Mais je voudrais revenir sur les mères, pardon. Les femmes, c'est la moitié de la population française. Sur ce point-là, donc avec la retraite minimale, je le disais, les plus pauvres vont être aidés de ce fait-là, pour celles qui auront leur trimestre complet. Je suis scandalisée de ce que... il y a des catégories qui sont... des catégories ultra-minoritaires qui ont tous les droits. C'est un scandale si on ne les favorise pas. Mais je parle de manière générale.
Ah bon, par exemple, oui, si vous dites ultra-minoritaire, vous avez quelque chose en tête quand même.
Par exemple, vous pouvez. Il y a certains métiers, il y a les questions de la SNCF, du service public, de tel ou tel métier.
Et ça a été réglé visiblement.
Et de fait, eux sont foudrages parce que ça leur fait un gros delta dans le changement d'âge de la retraite. Et en revanche, mais si je prends des questions sociales, vous avez les minorités LGBT, les minorités, on ne parle que d'elles. Les femmes, dont on parle beaucoup, mais paradoxalement, non mais je parle de manière générale, les femmes, c'est la moitié de la population et on n'en tient pas compte. Après, on parle de ça toute la journée, les femmes, mais dans la réalité des faits, pour le moment, rien n'a bougé pour ce qui est des retraites.
Allez, c'est parti pour la chronique éco, on a pris un tout petit peu de retard. Bonjour Eric, on n'a pas le billboard aujourd'hui, désolé, on va y aller direct. On va parler de cette crise qui touche le commerce en général. On a beaucoup parlé des enseignes qui souffraient, qui étaient proches de déposer le bilan. André, par exemple, que vous avez cité hier, Camailleux, Koukaï. Il y en a une autre enseigne que tout le monde connaît dans la restauration, qui se fait bien du souci pour son avenir.
Ben oui, c'est Courtepaille, on se souvient tous de cette chaîne mythique. Alors évidemment, elle avait à une époque les toits de chaume, vous vous rappelez, c'est là où on mangeait des grillades. Alors ben, le problème, c'est que cette enseigne qui a été créée dans les années 60 est couverte de dettes, elle a vraiment du mal. Il y a 25 millions d'euros rien qu'en 2021. Alors ce sont 220 restaurants, 2000 salariés. Et elle avait été rachetée il y a 2 ans au tribunal de commerce parce qu'elle était en redressement judiciaire. C'est le groupe Buffalo Grill qui l'avait reprise. Et puis 2 ans après, rien à faire, ça ne redécolle pas. Alors c'est vrai qu'il y avait eu le Covid autrefois, maintenant c'est la crise économique, on se serre la ceinture, il faut le reconnaître, les prix ont monté, l'inflation est là. Et puis surtout, alors là c'est pour ça que je voulais vous en parler, il y a un gros problème de changement de mentalité, puisqu'il y a le télétravail, déjà qui empêche finalement une certaine catégorie de population à aller à midi au restaurant, c'était fréquent d'aller chez Courtepaille à midi. Il y a aussi le problème, on mange dans le street food, vous savez, dans la rue, c'est-à-dire qu'on se fait livrer son plat, on mange comme ça tout en marchant, on en voit de plus en plus, ce qu'on appelle le street food, vous avez le fast food, vous avez les repas de thaï par exemple, qui arrivent aussi sur les bureaux, les livraisons, voilà, tout ça, ça fait du tort.
Il y a un petit peu la crise aussi qui est passée par là.
Oui, c'est ce que je dis, bien sûr, l'inflation, les prix qui vont, complètement, vous avez raison, et donc là aujourd'hui, des dettes importantes à éponger, alors voilà, Courtepaille est de nouveau en vente, le problème, et je termine par là, c'est qu'il va falloir réinvestir pour relancer cette belle marque, parce que c'est une marque mythique et qui fonctionnait bien autrefois, elle avait été créée par un particulier dans l'Yonne, elle avait été rachetée par le groupe groupe Novotel Accor. Elle a bien vécu, mais aujourd'hui, eh bien, relancer, ça va demander 110 millions d'investissements rien que pour rénover les restaurants. Donc vous voyez, relancer Courtepaille risque d'être difficile à digérer.
Merci, c'était... il voulait absolument la faire, ça, Michel. C'était tout le temps qui nous restait pour cette première partie. On va parler évidemment de la tournée européenne de Volodymyr Zelensky, de ce qu'il en a réellement retiré. A tout de suite. De retour dans 90 minutes info avant d'entamer la deuxième partie de notre débat. Je propose de retrouver Mickaël Dorian. C'est l'heure du JT. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Fin des débats au procès d'un vaste trafic de drogue aux assises de spéciales de Douai. Trafic démantelé en 2017 dans le port du Havre. Sandra Buisson, vous suivez ce procès pour CNews. Hier, l'avocat général a requis 13 à 25 ans de prison ferme contre les 6 accusés. Et aujourd'hui, les dernières plaidoiries ont eu lieu tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ces derniers instants d'audience?
Eh bien, les accusés ont eu la possibilité de dire quelques mots juste avant que la cour ne parte délibérer. Un accusé s'est levé pour dénoncer des réquisitions démesurées. Karim Djemel, 42 ans, a reconnu à l'audience avoir dans cette affaire cherché un opérateur portuaire pour sortir de la drogue du port et avoir conditionné de la résine de cannabis. Debout dans le box face à l'avocat général, il parle fort jusqu'à crier et même pleurer. Oui, j'ai voulu prendre un petit billet, mais il réfute être un logisticien. Le ministère public a requis contre lui 18 ans de prison ferme. Une peine de chef de cartel, lance l'accusé, en détention provisoire. J'ai croisé des gens qui tuent, ils n'ont pas eu ces peines-là. Avant cela, ce sont les avocats de la défense qui ont fustigé la volonté de l'accusation, selon eux, de faire de ce procès celui de baron de la drogue avec des réquisitions, vous l'avez dit, qui vont de 13 à 25 ans de prison. 22 ans, par exemple, contre Mohamed Mellal, considéré comme la dynamique du trio chargé de faire sortir la drogue du port. 22 ans, une peine d'ostracisme, d'éradication sociale aux yeux de son avocate. Quant au conseil de Dion Mendy, décrit par l'avocat général comme le commanditaire, celui à qui la drogue était destinée, il a plaidé l'acquittement face, selon lui, à des charges basées sur un cumul d'erreurs et d'approximations. 25 ans ont été requis à l'encontre de son client et 500 000 euros d'amende. Le verdict est attendu aux alentours de 17 heures.
Sandra Buisson et Sacha Robin en direct des Assises spéciales de Douai. Le dernier adieu à Philippe Tesson, les obsèques de l'écrivain ont eu lieu ce matin en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Parmi les personnalités venues soutenir la famille et l'entourage de l'ancien journaliste, la première dame Brigitte Macron, l'écrivain Frédéric Becbédé ou encore la journaliste Claire Chazal. Dans le reste de l'actualité, le coup de pouce d'un maire des Bouches-du-Rhône pour aider ses administrés à faire face à l'inflation. Comment ? Eh bien, en baissant les taxes locales, forcément, les habitants sont ravis. Ce maire, c'est celui de Bouc-Bel-Air. Stéphanie Rouquier l'a rencontré.
Les habitants de Bouc-Bel-Air affichent un large sourire ce matin. Face à l'explosion du coût de la vie, la municipalité a décidé de baisser les taxes communales.
Pas bonne nouvelle. Enfin, moi, c'est ma première année, donc je n'avais pas encore payé.
Oh ben, de toute façon, c'est une bonne chose vu le pouvoir d'achat que nous avons, mais c'est une bonne, très très bonne chose.
Moi, je veux du concret. En fait. Des fois, on dit oui, on va baisser, mais il faut voir.
Alors concrètement, c'est la part locale de la taxe foncière qui sera concernée par cette baisse.
C'est un effort terrible, si vous voulez, sur nos recettes. Mais comme nous avons bien géré depuis des années, je puis me permettre de le dire, on a, si vous voulez, les moyens d'anticiper ça. Je crois qu'il faut aider les gens. Et nos contribuables, seront aidés.
Avec d'un côté cet effort de la municipalité et de l'autre côté l'augmentation des taxes annexes qui dépendent, elles, de la métropole Aix-Marseille, le prochain avis de taxe foncière des propriétaires de Bouc-Bel-Air devrait être équivalent à celui de 2022.
L'actualité internationale à présent, au Proche-Orient, deux Israéliens dont un enfant de 8 ans sont morts dans un attentat à la voiture bélier à Jérusalem-Est. 5 autres blessés sont à déplorer, dont 2 enfants toujours dans un état critique. Les précisions sur ce drame avec notre spécialiste des questions internationales, Harold Iman.
C'est encore une fois un résident de Jérusalem-Est qui a attaqué des habitants juifs de cette partie de la ville. Au volant d'une voiture ordinaire, le kamikaze de 33 ans a foncé sur la petite foule qui attendait l'autobus à un arrêt dans le quartier juif de Ramot. Le terroriste a été abattu par un officier militaire présent sur les lieux. Il a été identifié et sa maison emmurée. Le djihad islamique et le Hamas se sont réjouis de cet attentat, mais ne l'ont pas revendiqué. 31 morts en 2022, 7 le 27 janvier et 2 aujourd'hui. Voici ce qui constitue une campagne concertée d'incitation au terrorisme de la part des organisations militantes palestiniennes qui sollicitent les habitants musulmans de Jérusalem-Est en particulier.
Et c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. 90 minutes info continue. C'est avec Nelly Denac et ses invités.
Merci beaucoup, cher Mickaël. Et je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi, bien sûr, pour toute l'actu en votre compagnie. Allez, on entame le deuxième bloc de ce débat. La tournée Zelensky s'est achevée sans grande avancée majeure, il faut le dire, en termes d'armement pour lui. Mais évidemment, un soutien massif toujours et de principe des 27. Alors, il était venu demander plus d'aide, plus de force de frappe. Plus vite également, écoutons un extrait de ce qu'il a dit aux Européens.
Nous avons besoin de munitions, de chars modernes, de missiles à longue portée, d'avions de chasse modernes. Merci de nous offrir le soutien militaire que vous nous offrez. Merci d'en faire davantage. Nous devons aller plus vite que notre agresseur, car il est en train de se mobiliser davantage.
Bonjour Pierre Benazet, vous êtes correspondant à Bruxelles. Merci d'être en notre compagnie. Alors vous avez évidemment suivi au plus près toute cette séquence diplomatique. Force est de constater qu'il n'a pas obtenu tout à fait ce qu'il était venu chercher. Il a beau faire monter les enchères et certains disent de lui qu'il est peut-être un peu belliqueux hein, sur cette question de la guerre. Ça n'a pas fonctionné comme précédemment.
Non, mais on connaît la tactique désormais utilisée par... à la fois la présidence ukrainienne et par les différents membres de son gouvernement, en particulier le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense, on pose des demandes qui paraissent absolument impensables pour les partenaires. On peut juste penser en termes de missiles solaires ou bien en termes de chars de combat. Ça paraît impensable au moment où la demande est posée. Et puis, plusieurs mois plus tard, on se retrouve avec une fourniture d'armement conséquent et considérable, toujours avec cette idée d'éviter de sombrer dans la co-belligérance. Mais à chaque fois, on s'éloigne un peu plus des armements traditionnels. On est loin des 5000 casques lourds offerts par la République fédérale allemande au tout début du conflit. Désormais, on parle de systèmes d'armes beaucoup plus tangibles. Alors effectivement, Volodymyr Zelensky est reparti sans promesses tangibles, autre qu'une augmentation de l'aide pour la formation des soldats, 30 000 soldats ukrainiens qui vont être formés cette année, une nouvelle tranche, une septième tranche d'aide militaire à un demi-milliard d'euros pour acheter des matériels qui seront ensuite fournis à l'Ukraine. Mais on sait que de toute façon, de l'avis de l'essentiel des partenaires européens de l'Ukraine, les avions, c'est trop tôt et ce n'est pas le besoin le plus immédiat. Vous avez entendu dans l'extrait qu'on vient de voir à l'instant, il parle de missiles, il parle de chars, il parle de munitions. Et c'est ça qui, pour les Européens, constitue plutôt l'urgence, quel que soit l'accueil qu'il lui réserve.
Alors justement, sur les avions, pourquoi les Européens sont-ils réservés, comme vous le dites? On va écouter les explications fournies par Emmanuel Macron, je reviens vers vous.
Il est essentiel que les alliés privilégient les matériels qui sont les plus utiles par rapport à l'effet final recherché par les troupes ukrainiennes et les plus rapides. Dans aucun cas, des avions de chasse ne peuvent être livrés dans les semaines qui viennent, parce qu'il y a des délais de formation, de livraison et formation incompressible pour des avions qui ne sont pas connus des pilotes ukrainiens. Et donc, je ne l'exclus absolument pas, mais ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins.
Alors, nous sommes d'accord, Pierre, que ça ne veut pas dire jamais. Parce que là, il dit par deux fois, c'est pas le moment, je ne l'exclus pas. Ça veut dire que, un peu dans la veine de ce que vous nous disiez à l'instant, c'est-à-dire qu'on demande beaucoup en espérant avoir un petit peu, il n'a pas complètement renoncé à cela non plus, Volodymyr Zelensky.
Non, il n'y a pas renoncé, il y renoncera probablement pas. Mais de toute façon, le problème, c'est aussi le délai. On n'est pas dans un tempo rapide. S'il s'agit d'avions de chasse, enfin je veux dire, d'avions de combat en général, que ce soit des chasseurs multirôles ou des chasseurs bombardiers, il faut des mois et des mois de formation pour requalifier un pilote, 6 mois la plupart du temps, et encore plus longtemps pour la remise à jour des appareils qui pourraient être éventuellement livrés. Et les appareils sur le sol, ça constitue plus une cible qu'autre chose pour les armées russes. Donc en l'occurrence, les Européens ne voient pas tellement l'avantage qu'il y aurait à fournir des avions à l'Ukraine, en particulier des avions de fabrication occidentale. Par exemple, les F-16 américains sont les plus nombreux dans les armées de l'air européennes, mais ça semble assez peu pratique en termes d'efficacité opérationnelle. En revanche, beaucoup se disent que dans les armées ex-pacte de Varsovie, il reste de nombreux MiG sur lesquels les pilotes ukrainiens sont formés. Mais là encore, un avion, c'est plus de l'ordre du symbole que de l'ordre de l'efficacité militaire réelle. L'Ukraine aimerait bien évidemment reconquérir la maîtrise du ciel, qui est très disputée au-dessus de son territoire. Mais pour les Européens, c'est vraiment pas une priorité. Et quand Emmanuel Macron dit « c'est pas une question de semaine », c'est un euphémisme, c'est même pas une question de mois, a priori. Oui.
Vous restez avec nous parce qu'il y a un autre sujet en débat, on va le voir tout à l'heure, c'est la question du contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. Mais on va faire un petit tour de plateau sur cette question de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça vous a évoqué, Dylan Slama, cette surenchère, d'une certaine manière, de Volodymyr Zelensky, sachant qu'il sait lui-même qu'il y a la grosse bataille du printemps qui l'attend et que les Russes n'ont rien lâché sur le terrain, hein.
Je pense qu'il y a une surenchère de sa part qui consiste à montrer qu'il a peur, à montrer qu'il a besoin de nous au sens large, nous, la France, mais aussi l'Europe, l'Occident et même les États-Unis où il a fait, où il avait réservé sa première sortie à l'étranger. Et je pense aussi que il y a aussi de la communication et je pense aussi qu'il place aussi ses pions pour plus tard. On sait que la visite à Bruxelles, très précisément, c'est aussi dans le cadre de sa volonté de faire rejoindre l'Union européenne. C'est un objectif qui a été clairement posé sur la table et on voit que c'est aussi pour ça qu'il se déplace. On est en 2023. Si je dis ça, c'est parce que finalement, toutes ces discussions, elles peuvent avoir lieu de manière dématérialisée. S'il y va et s'il se rend sur place, en présentiel, comme on dit maintenant, c'est parce que, un, il connaît la force des symboles, parce qu'il voulait avoir cette photo de groupe, la photo de famille, sur laquelle il y a même eu M. Orban, alors qu'on sait que c'est pas avec lui que les relations sont forcément les meilleures. Et aussi, je pense, parce qu'il prépare aussi un petit peu le coup d'après, qui est, bien sûr, l'inclusion dans l'Union européenne de l'Ukraine.
Il veut acter, d'une certaine manière, cet enclenchement de l'adhésion, sachant que déjà, ils ont eu quelques passe-droits, hein, les Ukrainiens, par rapport à d'autres pays candidats. Le processus a été largement accéléré hein, par Ursula von der Leyen.
Oui, exactement. Il est accéléré parce que l'Ukraine subit cette agression-là. Et c'est quelque chose de fort que pour l'Union européenne, déjà, de dire on est derrière et l'adhésion est quelque chose de possible dans l'avenir. Néanmoins, ça doit répondre quand même à un certain nombre de règles particulières hein, qui sont des règles toujours exigées, en particulier des règles contre la corruption. Et dans ce domaine-là, l'Ukraine avait des problèmes et a toujours des problèmes contre la corruption. Donc c'est aussi à Zelensky à...
J'imagine que la guerre ne va pas arranger les choses.
Oui, bien sûr, bien évidemment. À l'occasion de marchés d'ailleurs de guerre, on a vu des affaires de corruption qui ont surgi dernièrement. D'ailleurs, Zelensky est intervenu assez autoritairement dans ce domaine-là, ce qui est plutôt bon signe. Mais pour en revenir à l'aide militaire... Est-ce que l'Europe, vis-à-vis en particulier des États-Unis, peut se payer le luxe de ne pas aider ou d'être en deçà de ce qu'il faudrait pour l'aide ukrainienne? La réponse est non. On est obligé d'aider ce pays qui vient d'être agressé. Et puis on est obligé aussi, par cette aide-là, de s'opposer à l'avancée des Russes dans une partie
oui,
de l'Europe.
Oui, mais la question aussi est... combien de temps? Pour combien de temps encore? Il commence à y avoir quelques voix qui s'élèvent parce que, je le disais, la maîtrise du terrain quand même.
En fait, en réalité,
les Russes maîtrisent quand même largement le Donbass maintenant et ils sont pas prêts à céder cette partie du territoire. Là où Volodymyr Zelensky est jusqu'au bout, il veut aller récupérer jusqu'à la Crimée, alors, ce qui semble un peu difficile quand même en l'espèce.
Alors là, vous avez moi, je suis pas spécialiste de ce type de conflit-là, mais vous avez des spécialistes qui disent qu'il va y avoir une offensive. Dans un premier temps les Russes, et les Russes vont profiter de ces mois-ci où le matériel lourd n'est pas encore arrivé pour aider les Ukrainiens, pour avancer, et après il y aura une contre-offensive ukrainienne. Grosso modo, c'est ce que disent les spécialistes d'une manière générale. Donc l'Europe est obligée de continuer ce flux-là jusqu'à la fin du conflit en réalité.
Ludovine de la Rochère, Volodymyr Zelensky, il a dit quelque chose qui m'a marqué, il a dit « nous nous défendons ». Mais il a aussi agité cette peur, et un petit peu dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, nous vous défendons aussi.
Il joue beaucoup sur ce registre-là. Si vous sauvez l'Ukraine, vous vous sauvez vous-même. Il y a un peu une petite forme de chantage, et malgré tout, l'Ukraine n'est pas l'Europe. Et l'histoire de l'Ukraine et de la Russie sont leur propre histoire et non la nôtre. Alors évidemment, on n'a pas envie, on ne souhaite pas, il serait scandaleux, d'abandonner l'Ukraine à son sort, naturellement, et c'est bien pour cela que nous intervenons. Moi, je suis quand même frappée de ce que
Est-ce qu'on a d'autres aspects de nos interventions? L'aspect humanitaire, l'aspect médical. Qu'en est-il des Ukrainiens qui ont dû quitter leur pays? Ça, ce sont aussi des manières fondamentales d'aider l'Ukraine, de ne pas l'abandonner. Pour revenir à la question militaire, le risque, c'est bien d'être dans l'escalade, étape par étape, vers une troisième guerre mondiale. Est-ce que c'est cela que nous voulons? Est-ce que nous voulons prendre ce risque? Et j'ajoute que dire et accélérer l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, je pense que ça n'est pas le moment. Je pense que c'est inutile et maladroit à ce stade. On est d'accord. Charles Michel a été là-dessus très insistant. Et je trouve que c'est malvenu. Dans un contexte de crise, c'est pas là qu'on prend des décisions aussi importantes. Je suis pas à l'aise avec la manière dont les choses... dont les échanges ces dernières semaines se poursuivent, et avec Zelensky, lui, il est dans son rôle, il défend son pays, il veut de l'aide. Donc il est normal qu'il insiste, quitte à aller jusqu'à un peu une forme de chantage. En sauvant l'Ukraine, je ne suis pas sûre qu'on sauve l'Europe.
Alors, je vous le disais, autre sujet en débat parmi les 27, c'est le contrôle des frontières extérieures. Pierre Benazé, l'UE doit-elle financer des clôtures à ses frontières pour lutter contre l'immigration irrégulière? Ce débat, il a bel et bien ressurgi hier avec la pression d'une partie des États membres qui s'accentue pour une telle solution. Mais on voit quand même pas mal de dissensions. Hein.
Oui, effectivement. Alors, il n'y a plus de dissensions sur un point, c'est l'existence des frontières physiques elles-mêmes. On sait que lors des premières constructions de barrières, de murs, de barbelés, ou vous appelez ça comme vous voulez, il y avait eu des critiques de certains autres États membres, plutôt des États membres situés en Europe de l'Ouest ou plutôt des pays enclavés physiquement, sans frontières maritimes et sans frontières extérieures. Ce débat-là semble dépassé. D'ailleurs, le nombre de kilomètres de frontières extérieures de l'Union européenne qui sont dotés de barrières, à minima, il a septuplé. On est passé de 300 kilomètres à environ 2000 aujourd'hui. Alors effectivement, un certain nombre d'États membres appellent les institutions européennes à prévoir un budget spécifique pour la construction de clôtures, de miradors, de barbelés. Hors de question pour certains, par exemple le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, et puis d'autres y sont relativement hostiles. On sait que c'est le cas en particulier de Xavier Bettel au Luxembourg, mais c'est aussi a priori probablement le cas de la France. Mais ce débat a effectivement ressurgi tard cette nuit lors du sommet européen. La Commission européenne est prête à financer des matériels, mais elle parle plutôt de véhicules, de caméras de surveillance, de tours de contrôle, de tours de guet. Mais en tout cas, le débat est à nouveau sur la table. Il y aura des budgets européens pour des équipements, peut-être pas pour les murs eux-mêmes, mais on sait que des pays membres comme en partie la Hongrie, mais surtout l'Autriche et étonnamment l'Irlande aussi, poussent très fort pour que des budgets européens spécifiques puissent être alloués à des constructions matérielles de sécurité sur les frontières extérieures, parce que la préoccupation, c'est celle-là. Il n'y a pas assez de retours, seulement 20% des retours espérés se font. Sur 330 000 incidences l'an dernier, il n'y a eu que 21% de personnes qui sont reparties. Ce sont des incidences, évidemment, ce ne sont pas des personnes, parce qu'il peut y avoir plusieurs fois. Les Nations Unies estiment que ça pourrait être environ la moitié en termes de personnes. Enfin bref, l'Union européenne veut en tout cas acter son désir de voir ces personnes repartir et prête à exercer de la pression diplomatique sur certains pays, comme elle le fait pour la Gambie et comme elle l'a menacé de le faire pour le Bangladesh ou le Sénégal, priver ces pays de la possibilité d'avoir des visas Schengen, de manière à ce qu'ils acceptent les retours sur leur territoire de leurs ressortissants.
Ce qui représente quand même une avancée, hein, déjà, oui. Parce que voilà, c'était un sujet un peu tabou quand même jusqu'à présent. Merci beaucoup Pierre Benazé d'avoir été en notre compagnie cet après-midi. Vous parliez du Luxembourg. Justement, on va l'écouter s'expliquer sur l'impossibilité, selon lui, y compris morale et symbolique, de mettre en œuvre ce genre de barrières physiques.
Je crois qu'un investissement européen dans des clôtures et des murs serait une erreur. Surtout quand vous commencez à un endroit, alors vous voulez continuer. Et alors ce sera une frontière, puis une autre frontière. Alors la conclusion sera que nous voulons une forteresse en Europe. Et comme je le dis aussi aux collègues allemands, l'Europe devrait pouvoir se passer d'un mur. Cela fait partie de notre histoire sur notre continent.
Dylan Slama, ce qu'il dit, vous êtes spécialiste aussi du droit des étrangers, ce qu'il dit à la fin, ça fait partie de notre histoire, attention de ne pas ériger un mur, ça rappelle évidemment d'autres,
heures de l'Europe telle qu'on l'a connue jusqu'en 89. Vous comprenez la philosophie qui préside.
D'un point de vue symbolique, c'est vrai que l'Europe, c'est plus la destruction des murs que l'érection de nouveaux murs. Donc ça, c'est clair. Mais ensuite, d'un point de vue pragmatique, il est clair que les frontières sont importantes et qu'elles sont fondamentales et qu'elles doivent être respectées et qu'on a un problème aujourd'hui avec les frontières qui ne sont plus respectées. Mais la solution du mur, j'aimerais dire deux choses là-dessus. La première chose, c'est que la mer est une frontière, je mets des guillemets, naturelle, et la mer, on le voit, extrêmement dangereuse et qui est un cimetière pour beaucoup de migrants, elle n'arrête pas les volontés de ceux qui veulent partir. Et je ne suis pas sûr qu'un mur, encore une fois, qui déjà sera à construire dans des conditions extrêmement complexes et onéreuses, je ne suis pas sûr que le mur soit plus efficace que la mer, encore une fois. Hein. Je parle de dizaines, voire de centaines de kilomètres que certains pauvres migrants n'hésitent pas à traverser au péril de leur vie, et très souvent, ils y meurent. Donc, est-ce qu'un mur serait plus efficace? J'en suis pas sûr.
Et puis, mais un mur, c'est autre chose que le mur entre le Mexique et les États-Unis. Là, c'est des distances
exactement
qui sont sans
commune. Déjà, celui mesure, entre Mexique et États-Unis, vous avez raison de le dire, il n'est pas très efficace. Ouais. Je crois que, effectivement, beaucoup ont pointé ces lacunes, mais là ce serait encore plus compliqué. Mais surtout, je voudrais aller encore plus loin, on peut construire tous les murs et tous les barbelés qu'on veut, je le dis, il y a une véritable volonté de certaines personnes de venir, tout simplement parce que le problème à régler, je pense qu'il est chez eux. Le Monde, il n'y a pas longtemps, a fait état de ce chiffre, il naît tous les ans au Nigeria plus de monde que dans l'Europe tout entière. Et l'Europe et le Monde avaient qualifié d'ailleurs ce fait démographique-là, de bombe à retardement. Oui. Donc on voit bien qu'il y a un véritable problème démographique entre l'Afrique et l'Europe, que la crise démographique et donc peut-être migratoire d'une certaine manière, elle est devant nous, et que si on veut régler ce problème, je pense qu'il ne se règle pas ni par des murs, ni par des contrôles plus stricts et plus sévères, se règle en essayant de faire en sorte que ces individus ne souhaitent plus venir et soient heureux, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas puissent vivre décemment dans leur pays.
On a raté l'aide au développement. En tout cas, on ne met pas assez l'accent sur ça.
On a manifestement raté l'aide au développement. De toute façon, pour une population qui est mal chez elle, au point qu'un nombre considérable souhaite quitter leur pays, ce qui est quelque chose de très difficile et de très douloureux, on l'oublie sans cesse, c'est dire à quel point ils sont en situation de difficulté. Donc premièrement, à nous de les aider, nous qui sommes des pays plus riches, ce sera beaucoup plus favorable pour eux, puisqu'il vaut mieux pouvoir bien vivre chez soi. Par ailleurs, on voit bien que ces pays qui ont des difficultés pour avancer, il y a un cercle vicieux terrible. Il y a des pays concernés par des difficultés récurrentes dont ils ne peuvent pas sortir. Aidons-les. Mais on est tellement obsédé par la peur d'être dans un soi-disant néocolonialisme qu'on ne le fait pas. Et puis il y a aussi une idéologie qui consiste à être très favorable à l'immigration, à une immigration même massive, en considérant que finalement, c'est terrible, que les hommes ici ou là peuvent bien se déplacer, ça n'a pas d'importance. Mais ça n'est pas facile pour ceux, encore une fois, qui doivent quitter leur pays, pas plus que pour les populations qui accueillent. Et donc, le meilleur moyen de respecter même ceux qui veulent émigrer leur pays, c'est bien de les aider là où ils sont, pour eux-mêmes, encore une fois. Et mais là, on a un vrai défaut, mais aussi pour des raisons idéologiques.
Et puis, il y a le corollaire de tout ça, quand même, qui était un petit peu évoqué par Pierre Benazet tout à l'heure, ce sont les reconduites aux frontières. Et là-dessus, on n'a pas une politique très efficace. C'est-à-dire que une fois que les migrants sont entrés, il y a une absorption naturelle qui se fait du fait qu'on n'arrive pas à les renvoyer vers leur pays d'origine pour les histoires notamment de visas consulaires avec certains pays qui ne sont pas octroyés.
Oui, à peu près 16 à 17 000 reconduites aux frontières l'année dernière, qui est une année après le Covid. Mais c'est quelque chose qui s'étend sur le temps. Et effectivement, on a un vrai gros problème de reconduite aux frontières. C'est pour ça que
ça coûte aussi. Donc l'idée, c'est plutôt c'est de qu'ils ne viennent pas plutôt que
voilà,
de les reconduire.
C'est ce que j'allais dire. C'est pour ça qu'il faut essayer quand même, tant que faire se peut, de faire en sorte qu'ils ne viennent pas avec les deux solutions. La première, c'est effectivement qu'ils soient heureux chez eux et qu'il y ait un développement chez eux. Mais là aussi, vous dites on a loupé quelque chose. Sans doute qu'on a loupé quelque chose. Mais ceux qui ont loupé le plus, c'est quand même ceux qui ont pris les manettes de ces pays-là après les indépendances et qui n'ont pas réussi
le développement
de ces pays-là. Quand même, rendons à César ce qui est à César. En Afrique,
on parlait de corruption. Bon, voilà,
qui ne sait où est passé l'argent. Chaque six mois, quoi.
Et qui ne cesse de nous accuser nous de tout.
Voilà. Et ça continue. La deuxième chose que je voudrais vous dire, si vous le permettez, parce qu'avant d'être d'être chef du RAID, j'étais sous-directeur de la police aux frontières à l'international et représentant de Frontex au niveau de représentant français de Frontex, et je suis allé moi sur les frontières bulgares et sur les frontières grecques, et sur les frontières bulgares et sur les frontières grecques, l'Europe, par l'intermédiaire de Frontex, finançait des systèmes que vous voyez derrière vous avec des barbelés, avec des systèmes intelligents, et financer déjà ces murs-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la discussion qu'on a est complètement focus. Cette discussion-là est complètement focus. Il faut arrêter de se
mentir. En 10 secondes, vraiment, mentir. On est en train de déborder, Ludovine.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que quand même, quand on parle celui du Luxembourg, pardon, le Premier ministre du Luxembourg qui dit, et d'ailleurs votre titre, l'Europe forteresse qui ferait respecter, parce qu'on ferait respecter nos frontières, quitte à les rendre symboliquement visibles et efficaces, en fait, c'est la légitimité des États, en l'occurrence la légitimité de l'Europe. Mm-hmm. Et c'est d'abord, pour en effet que ça ne reste pas... trop choquant, le droit qui doit faire respecter nos frontières.
Merci beaucoup. Allez, on s'interrompt à nouveau et puis on reviendra pour parler de cette séquence. Jean-Luc Mélenchon, il n'était pas content hier soir. On vous raconte pourquoi. À l'issue de 2 heures de débat quand même. À tout de suite. 90 minutes info, le débat de retour juste après le rappel des titres, à nouveau en compagnie d'Adrien Spiteri.
L'Ukraine dénonce une attaque massive contre des sites énergétiques. Des dizaines de missiles russes auraient été tirés ce vendredi. Selon Kiev, 2 projectiles ont traversé l'espace aérien de la Roumanie et de la Moldavie. Bucarest dément cette information. L'ONU demande des fonds après les terribles séismes en Turquie et en Syrie. L'organisation réclame 77 millions de dollars. Cet argent vise à aider 874 000 personnes impactées par le drame. L'ONU demande également un cessez-le-feu immédiat en Syrie pour faciliter l'aide aux victimes. Et puis les prisons de plus en plus survolées par des drones. 68 survols ont été recensés en 2022 contre 37 en 2021. 29 d'entre eux ont servi à livrer des objets illicites à des détenus. On y retrouve des téléphones portables, des armes ou encore de la drogue.
Merci beaucoup. On va parler politique. Alors, il y a la réforme des retraites, mais en marge de tout ça, il y a toutes les obstructions, les interruptions de séances, les rappels au règlement. Depuis le début de la semaine, il faut le dire, l'ambiance est électrique dans cet hémicycle. Et force est de constater qu'une affaire en chasse une autre. Après l'affaire Adrien Quatennens, on en est déjà à l'affaire Thomas Porte, vous le savez, cette photo malencontreuse avec un ballon de foot sur lequel on voit la photo d'Olivier Dussopt notamment, qui a vivement réagi. Voilà, il se tient avec ce ballon et où on voit très très bien le visage de ce ministre du Travail. Bonjour Gauthier Lebray, il faut le dire, cette affaire, elle est en train d'enflammer l'hémicycle aujourd'hui.
Absolument. Juste avant de prendre l'antenne avec vous, j'étais encore en train d'écouter les débats, si on peut appeler ça des débats, effectivement, puisque la séance a été suspendue il y a une dizaine de minutes. Thomas Porte, donc député insoumis, qui vient de commettre hier la photo que vous avez montrée, a tenté de prendre la parole dans l'hémicycle. Il a été très rapidement sifflé par les députés de la majorité. Rassurez-vous, il n'y a pas de ballon ici, a-t-il dit. Alors là, ça a déclenché la bronca du côté de la majorité, mais aussi chez LR ou au Rassemblement National. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a donc fait le choix de suspendre la séance. Pas contente, Mathilde Panot, chef de file des députés insoumis, qui a dénoncé le manque d'impartialité de la part de Yael Braun-Pivet. Et donc, il y a quelques minutes, la séance a finalement pu reprendre. Thomas Porte a réessayé de prendre la parole, toujours impossible. Et donc là, les rappels, je regarde la télévision qui me permet de voir les débats en ce moment à l'Assemblée. Les rappels au règlement s'enchaînent du côté des députés Renaissance pour demander des excuses au député Thomas Porte. Et vous venez sans doute d'entendre la sonnerie. La séance est à nouveau suspendue puisque Thomas Porte vient d'essayer de reprendre la parole et il n'a toujours pas réussi. Et donc pendant ce temps, on n'avance pas sur le fond de la réforme. On est effectivement à commenter des polémiques au sein de l'hémicycle un peu plus chaque jour.
C'est sûr qu'à ce rythme, on ne va pas beaucoup avancer sur les articles, et sans doute pas jusqu'à l'article 7, dont on disait déjà que les amendements allaient freiner la course. Merci beaucoup, Gauthier. Alors, petite réaction, il y en a eu deux. Il y a eu Olivier Dussopt qui était très en colère. C'est rare quand même de le voir sortir de ses gonds, le ministre du Travail. Mais ce matin, il a pris la parole et regardez ce que ça a donné.
Mesdames et messieurs les députés de la France Insoumise, je vous dis, vos amendements ne servent à rien. Parce que, monsieur Tavel... Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Vous voulez recommencer? Vous voulez ma tête comme votre collègue? C'est ça que vous voulez? Vous voulez continuer dans la violence? Vous voulez continuer dans la stigmatisation? Vous aussi, vous voulez poser avec ma tête coupée? Vos amendements sont inutiles, c'est de l'obstruction et votre comportement ne sert à rien.
Et puis autre réaction, alors on soutient là Thomas Porte, c'est Antoine Léaumont, député LFI.
Moi je trouve ça rigolo, ça fait partie de la gaudriole française et si les macronistes essaient d'en faire aujourd'hui une polémique, c'est parce qu'ils sont très mal à l'aise vis-à-vis de ce qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale. Sur le sujet de la réforme des retraites aussi, ils sont très mal à l'aise, donc ils essaient de parler d'autre chose parce qu'ils n'ont pas envie qu'on parle des sujets sérieux, mais nous, désolé, on est là pour parler des sujets sérieux.
Alors on minimise Dylan Slama du côté de la NUPES ou alors le gouvernement essaie de faire feu de tout bois au fond?
Moi je pense que c'est pas un geste qui est très élégant. Maintenant je pense que les macronistes sont extrêmement contents d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Ça fait 2-3 semaines qu'ils galèrent à obtenir la moindre victoire symbolique à l'Assemblée. Et là coup sur coup ils se servent, parce que d'après moi c'est bien le terme employé, d'Adrien Quatennens hier ou avant-hier, et ils se servent aujourd'hui de Olivier Dussopt pour justement essayer eux aussi, pour reprendre un terme qui a beaucoup été employé, de mettre le bordel, parce que c'est ce qui marche, parce que ça fait des images, et parce que l'indignation aujourd'hui, chacun carbure à ça, quel que soit le camp politique, le camp politique. Donc il faut s'indigner, sinon c'est qu'on n'a rien apporté et ils n'arrivent pas à porter de leur réforme. Moi je pense qu'ils sont vraiment dans la posture lorsqu'ils dénoncent ça et qu'ils sont contents de pouvoir s'indigner du comportement d'en face. Et en vérité, il y a LFI qui est pris à son propre jeu de la bordélisation. Ça veut dire qu'ils passent leur temps à faire ça et maintenant c'est eux qui en subissent les conséquences, mais cette fois fait par la majorité relative.
Jean-Michel Fauvergue, vous avez été parlementaire hein, dans la dernière mandature, d'ailleurs, législature, je veux dire.
Et puis
on n'avait jamais rien vu de tel, quand même.
Ça avait bien commencé la précédente législature, mais là, effectivement, comme ils sont plus nombreux dans le camp des LFI, effectivement, ça bordélise beaucoup plus. On va le dire comme ça. En fait, je pense que les députés Renaissance, les députés de la majorité, se sont emparés des mêmes manières de faire que les autres députés. Et de toute façon, le temps joue pour la majorité, puisqu'on est sur du 47-1.
Il reste une semaine.
Et il va rester une semaine et on est en temps, quasiment en temps programmé. Et on sait qu'on ira. Ils savent qu'ils n'iront pas jusqu'au bout du texte. Donc de toute façon, aller jusqu'à l'article 2 ou jusqu'à l'article 3, ça n'est pas un vrai problème. Et la gaudriole va, comme disait ce député LFI, va continuer évidemment les prochains jours. Quoi. Mais en donnant une image déplorable quand même, notons-le quand même, hein, en donnant une image déplorable de cette Assemblée nationale, le Parlement aujourd'hui subit cette image-là. Et on parle de gaudriole, effectivement, c'est un peu délicat maintenant de prendre au sérieux.
Est-ce que c'est pas finalement déplorable dans le sens, on a l'impression d'assister à du théâtre, hein, oui, on se croirait dans la Rome antique, à l'époque où des tribuns où on débattait de tout et de rien dans l'agora.
Le problème, c'est que vous n'avez pas de tribuns.
Le problème, c'est que là, c'est au détriment de ceux qui se battent pour leur retraite, en fait. C'est-à-dire on n'aborde pas les sujets sérieux.
Malgré tout, vous mettez le jeu dessus, vous évoquez Rome, enfin l'Antiquité. Il y a une part de jeu de théâtre dans la politique. Oui, bien sûr. Alors, en effet, je suis d'accord. Malheureusement, là, il n'y a pas de tribuns. Olivier Dussopt, alors c'est vrai que ce ballon... C'est pas du tout une bonne idée, c'est choquant. Cela étant dit, Olivier Dussopt, quand il dit « Est-ce que vous voulez encore me voir avec la tête coupée ?», on rajoute, il exagère, il l'exploite. Et honnêtement, je trouve ces échanges, cette perte de temps, ces suspensions de séances successives indignes d'un sujet qui préoccupe de manière massive les Français. Ça n'est pas normal. Et l'obstruction qui est faite, alors qui est un exercice qui n'appartient pas qu'à la NUPES et qui est arrivé sur bien d'autres textes, c'est une méthode parfois employée. Sauf que là, il va empêcher carrément la lecture du texte, les explications de fond, des échanges constructifs, parce qu'il y a deux conceptions, c'est vrai, de la société, de la solidarité, mais il y a quand même aussi des fondements factuels à la discussion sur lesquels on doit pouvoir arriver à s'entendre, si ce n'est se mettre tout à fait d'accord. Et nous sommes, nous, Français, tous perdants.
Alors, si on parle de victimisation, parce qu'on a l'impression que c'est le terme à employer, hein, chacun se victimise face à l'autre, j'aimerais qu'on revienne à Jean-Luc Mélenchon, qui a vu rouge hier, faut le dire, lorsque des journalistes de BFM TV l'ont interrogé sur l'affaire Quatennens. C'était apparemment pas prévu au programme. Après avoir dit tout le mal qu'il en pensait, eh bien, il a carrément quitté le plateau. On regarde à nouveau cette séquence.
Je suis révolté contre le traitement. Qu'est-ce que vous attendez ? De le tuer ? Qu'il en ait marre, qu'il n'en puisse plus ? Vous avez vu la tête qu'il fait, là ? Et il tient bon. Mais ça ne vous suffit pas, vous passez ça bien en longueur, hein, en espérant qu'on se bouffe entre nous. Ce que vous faites est moralement répugnant. Alors je vous reconnais tel que vous êtes. Pour faire du buzz, vous êtes prêt à n'importe quoi.
Non, monsieur.
Et la scène que nous venons de vivre, je suppose, sera le moment clé d'une émission que je croyais consacrée aux retraites. Je regrette de vous avoir fait confiance. Vous êtes des gens sans principe, sans foi ni loi.
Allez, vous saviez très bien que c'était dans l'actualité de ce jeu. Restez là, monsieur Mélenchon. Vous ne pouvez pas partir comme ça.
On a retrouvé Jean-Luc Mélenchon ou au fond, on ne l'a jamais perdu, fidèle à lui-même?
Oh, je dirais qu'on ne l'a jamais perdu. À vrai dire, il n'a pas tort. Il y a le sujet important et qui compte pour les Français et pour l'avenir. Ça, c'est tout à fait vrai. Et il y a un sujet, entre guillemets, annexe, qui a déjà été bien traité, qui probablement le sera encore. Ça n'était pas le moment. Néanmoins, c'est extraordinaire. Mélenchon dirige la NUPES. La NUPES, pour une large partie de ses membres, est largement dans ce néo-féminisme radical qui fait des hommes, de manière assez générale, des coupables, qui, quoi qu'il arrive, sont coupables. Et s'ils ne sont pas coupables, c'est leur frère, enfin, ou leur père, ou leurs aïeux masculins. Et donc, il y a une espèce de surenchère et, qui est largement portée par la NUPES. Alors, mais M. Mélenchon n'est pas tout jeune, il ne comprend peut-être pas tout ce qui se joue à cet égard-là. Et il défend finalement M. Quatennens contre les jeunes générations qui suivent dans son propre parti.
C'est votre lecture également. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a toujours des réactions très épidermiques lorsqu'il s'agit de cet homme.
Alors, moi, je trouve que Jean-Luc Mélenchon a totalement raison sur le fond. Je pense que la justice, elle est très mal comprise par nos concitoyens. Et ce qui n'aide pas, c'est d'avoir constamment des hommes politiques qui, finalement, là, il a raison. Là, il a raison, Jean-Luc Mélenchon. Mais constamment, les hommes politiques disent non pas ce qu'ils pensent, mais selon qui est embêté judiciairement, finalement. Ça veut dire que ce serait en face, Jean-Luc Mélenchon se serait indigné de la même manière que tel individu condamné, soit encore ministre, je dis même pas condamné.
Bien sûr.
Ne serait-ce, il serait mis en examen, il serait le premier à demander la démission. Moi, je me rappelle, on parle de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise.
On l'a vu dans l'affaire Abad.
Moi, on parle de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Je me rappelle de ce jeune Tahar Bouaf, pour qui j'ai pas de sympathie personnelle, mais qui devait être candidat à la députation pour être député. Il a été mis en cause, on ne sait pas par qui, par une cellule totalement anonyme. Il n'a jamais été embêté par la justice. Et finalement, la France Insoumise, qui était quand même présidée par Jean-Luc Mélenchon à ce moment-là, la France Insoumise lui a retiré son investiture. Donc comment le même Jean-Luc Mélenchon peut nous dire aujourd'hui pour une personne qui est condamnée, alors qu'il a raison sur le fond, mais il n'est pas crédible? Et c'est le problème de tous les hommes politiques. On a la présidente Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, qui nous dit que c'est un scandale que M. Quatennens a loi et qui ne fait rien absolument contre Damien Abad. Et chacun finalement ne s'indigne que lorsque ça l'arrange politiquement. Et c'est comme ça qu'on arrive, et c'est ça que je regrette, et je le dis peut-être en tant qu'avocat aussi, à une justice qui est très mal comprise par nos concitoyens, parce qu'on a des indignations à géométrie variable, on n'est que dans la posture, et malheureusement, de la posture à l'imposture, il n'y a pas très loin.
Sauf qu'on peut être à géométrie variable quand quelqu'un est condamné et que l'autre n'est pas condamné. Vous avez cité le cas Abad et le cas Quatennens. Il y a une grosse différence, c'est qu'il y en a un qui est condamné, qui a reconnu les faits, et l'autre qui est encore, il y a encore une enquête de fait. Donc il y a une présomption d'innocence là-dedans.
Il y a eu deux plaintes classées sans suite aussi dans le cas de Damien Abad, non?
Oui, mais il y a une enquête en cours sur un cas. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas eu de décision de justice. Mais sur ces faits-là, tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit sur ce plateau-là. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, ce cas-là, comme d'autres cas, c'est le sparadrap du capitaine Haddock. Ça va lui rester collé à Jean-Luc Mélenchon. Et moi, ce qui est choquant quand même à un certain moment, c'est d'attaquer frontalement l'ensemble des journalistes et de cette manière-là,
Il n'aurait pas dû quitter le plateau pour vous?
Oui, moi je pense qu'il aurait dû. Il a le cuir tanné normalement, Mélenchon.
Je pense qu'il a quitté le plateau parce que ça lui évitait de répondre à cette question. L'émission était presque terminée. Peut-être. Il avait fait ses 2 heures. Il n'avait aucun intérêt à répondre à la question.
Peut-être, mais
donc il y a un jeu de scène.
Peut-être est-il, comme vous l'avez dit, a-t-il trop vieilli et peut-être n'est-il
pas dans le jeu. Je pense qu'il y a quelque chose qui échappe dans ce qui se passe chez les jeunes générations.
Je pense qu'il est le dernier à défendre des principes qui sont importants, notamment sur ce cas-là.
Allez, merci. On va s'interrompre et puis on va reparler de la délinquance qui s'accroît aux abords du Champ de Mars et du Trocadéro à Paris. A tout à l'heure. Je vous propose d'aborder le cas de ces deux touristes brésiliennes qui ont été agressées. Ça s'est passé sur le Champ de Mars début février. L'une d'elles aurait été agressée sexuellement, l'autre violée. Des faits qui mettent d'ailleurs en lumière la forte délinquance qui règne désormais dans cette partie très touristique de Paris. Des vols, des agressions en tout genre, des violences à l'encontre de touristes qui sont de plus en plus fréquents. Dans un climat en plus de préparation aux JO, évidemment ça fait un petit peu désordre. Maëva Laimi.
sur le Champ de Mars, des touristes venus se prendre en photo au pied de la Tour Eiffel. Des visiteurs tous très vigilants. Beaucoup ne se sentent pas en sécurité dans ce quartier.
Je ne prends rien d'important sur moi, ni mon passeport, ni mon téléphone, ni mes écouteurs. Tant que je suis avec mes amis ou avec du monde, je me sens en sécurité, mais pas toute seule.
Je garde mon téléphone dans mon sac et nous sortons tous ensemble, jamais tout seul.
Pas étonnant, les agressions et les vols y sont fréquents. Rien que sur le mois de janvier, les forces de l'ordre ont procédé à 139 interpellations sur ce site.
La présence policière pourrait être beaucoup plus accrue, ce qui n'est pas le cas. Il faudrait au moins doubler les effectifs de nuit et de journée. Il faudrait qu'il y ait une vraie sanction pénale et qu'il soit efficace et rapide pour justement dissuader ce genre de personnes de passer à l'acte.
Une dégradation de ce quartier due, pour certains élus, à une mauvaise gestion de la mairie de Paris.
Le Champ de Mars et la Tour Eiffel sont, à bien des égards, la vitrine de Paris dans le monde et la vitrine de la France. Et pour autant, la mairie de Paris est cruellement absente de sa gestion et également de la gestion de la sécurité qui pourrait être mise en place sur le site.
Pour les autorités, la sécurité aux abords de la Tour Eiffel est désormais un enjeu majeur, en particulier à moins d'un an et demi des Jeux Olympiques.
Voilà, je crois que tout est dit dans la fin du reportage. Quel désordre quand même, alors qu'on accueille un événement mondial majeur. On n'a pas l'impression que ce sera réglé de sitôt, Jean-Michel Fauvergue.
Oui, ce sont des endroits qui sont particuliers, la Tour Eiffel et le Champ de Mars. C'est là où on accueille le plus de touristes. Il y a quand même une problématique importante. Je me rappelle le précédent quinquennat, on a voté une loi que j'ai portée, la loi sécurité globale. Et cette loi, elle autorisait la mairie de Paris à former une police municipale. Et cette loi, en plus, c'était une loi qui permettait de travailler avec la police nationale, sur la police municipale et avec la sécurité privée. Et on voit qu'aujourd'hui, la présence policière, c'est toujours la police nationale qui l'assure. La police municipale n'est pas présente sur ces lieux-là. Et la police municipale devrait essentiellement servir à ça, c'est-à-dire à être présente et à rester H24 sur des endroits en impact, sur des endroits qui sont impactés justement par la criminalité.
Le fameux continuum de sécurité,
ouais. la sécurité globale, en fait, en réalité. Et là, on a peu de présence, pas de présence. La mairie de Paris ne prend pas en compte la sécurité de sa ville.
Donc Anne Hidalgo se fiche royalement de ce qui se passe dans le 7e arrondissement aujourd'hui.
Alors, il y a plusieurs choses. Les touristes ont toujours été une cible préférée parce qu'ils sont un peu perdus, ils ne parlent pas la langue, ils ont de l'argent éventuellement sur eux. C'est plus facile que d'attaquer les autres. Et donc, il y a toujours eu un risque particulier pour eux, mais qui a augmenté. On voit bien aussi, d'ailleurs, les images le montrent, qu'il y a des clandestins qui sont dans les parages au motif de vendre des petites tours Eiffel, etc. Moi, j'ai été à Rome au moment des funérailles, enfin pour les funérailles de Benoît XVI, et j'ai été très frappée de ce qu'il y avait une présence des forces de l'ordre devant toutes les institutions, devant tous les monuments, toutes les places où il y a beaucoup de monde.
J'étais à Rome aussi, il y avait quand même beaucoup de vendeurs à la sauvette sur les ponts romains sénégalais.
Je ne dis pas, je dis pas que tout est parti.
Il y a eu quand même, là, on a atteint des sommets avec les viols de ces touristes brésiliennes quand même.
Il y a de facto une différence considérable dans la présence des forces de l'ordre. Et à Rome, je ne saurais pas dire si c'était les carabiniers et je ne saurais pas dire si c'est municipal ou pas municipal. Mais juste comme ça, de facto, à la vue, il y a une différence très importante dans la présence policière. Et cela compte beaucoup, on le sait.
On est tous d'accord pour dire que ça fait désordre et que de toute façon, ce n'est pas une très bonne publicité pour nous à l'approche de l'événement.
Ça fait totalement désordre. Maintenant, j'ai lu un article à l'instant sur ce qui s'est passé. Apparemment, ce sont des individus avec qui ils ont passé la soirée, peut-être à danser et peut-être...
Donc c'est peut-être pas si clair que ça.
Okay. Non, alors je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas clair. Déjà, peut-être que ça ne l'est pas. Et ensuite, c'est à la fin de la soirée, ils les ont ramenés chez elles. A priori, elles le voulaient. Et c'est là que finalement, la soirée aurait pris une autre tournure. Mais donc, a priori, on n'est pas dans le cas, parce que c'est ce qu'on pourrait penser instinctivement. On n'est pas dans le cas de deux agresseurs de rue qui surgissent de nulle part et qui agressent de jeunes filles. Ça ne veut pas dire que c'est moins grave, mais ça veut dire que quand même, c'est autre chose.
C'est pas le même contexte, d'accord. C'est le même phénomène. On vérifiera tout ça.
Et c'est pas forcément des clandestins qui vendaient des tours Eiffel et qui ont décidé d'agresser.
Non, on n'a pas dit que c'était ça
non plus. Non, je sais bien, mais je le précise. Et deuxièmement, je voudrais dire quelque chose qui peut être très choquant, mais que je vais dire parce que c'est une réalité, c'est que, un, le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais, et deux, on peut prendre toutes les mesures qu'on veut, et ça fait deux fois que c'est la cause principale du quinquennat, le fait de limiter la violence, etc. Je pense qu'on est face à un phénomène qu'il est possible et souhaitable, bien sûr, de réduire, mais qu'on ne pourra jamais endiguer totalement. Donc je comprends l'exaspération, et elle est totalement normale, légitime, et on se pose à chaque fois des questions, comment endiguer et comment progresser. Oui. Mais si chaque fois que ça arrive, même une fois tous les 5 mois, une fois tous les 6 mois, c'est mis en avant, eh ben, ça pourrait être mis en avant.
Juste pour un dernier point quand même, parce que bon, moi je ne passe pas tout mon temps là-bas, mais il m'est arrivé de passer aux abords de la Tour Eiffel. La police municipale, il a raison, on ne la voit jamais. Il n'y a que des nationaux sur le site. Il n'y a pas de policiers municipaux.
Pardonnez-moi, il y a quelques années, on pouvait se promener sur le Champ de Mars sans aucune difficulté. Donc il y a une détérioration.
À 5 heures du matin, alcoolisé.
Il y a une dégradation. Non, mais là, ce dont on parlait, c'était d'une manière générale la sécurité. Il y a une dégradation, une détérioration considérable, que ce soit au Champ de Mars ou dans bien d'autres lieux, malheureusement. Et moi, je pense qu'on ne peut pas progresser tant qu'on n'est pas dans le réel, dans les causes et dans tout ce qui précède et explique cette insécurité.
Vraiment un dernier mot.
Oui. Sûr. En fait, en réalité, ce qu'il y a au niveau des forces de l'ordre, il y a une absence de présence. On va le dire comme ça.
Vous m'avez déjà dit ça.
À la fois des municipaux qui ne sont pas là, mais aussi au niveau des policiers nationaux. Et c'est ce qui a été demandé, c'est-à-dire de doubler leur présence dans les années à venir. C'est le président de la République qui l'a demandé lui-même. Et c'est une réforme qui est en cours. Effectivement, il faut qu'ils mettent pied à terre et qu'ils soient présents sur le terrain.
Et merci beaucoup. On verra s'il y a une montée en puissance à l'approche de l'événement. Merci à tous de nous avoir rejoint aujourd'hui sur ce plateau et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est Elliot Deval qui prend la main avec Punchline. Je vous dis excellente soirée sur notre antenne. Je vous souhaite un bon week-end aussi au passage et on se retrouve lundi 15h30. À bientôt.